Radio Foot International, Annie Gasnier.
Bonjour et merci de nous rejoindre à l'écoute de Radio Foot International sur RFI, bien entendu, avec au sommaire du jour Michel Platini, capitaine d'une équipe qui gagne, comme il le dit lui-même. Heureux, l'ancien champion d'Europe, triple ballon d'or après sa troisième élection à la tête du football européen. En attendant de rebondir, qui sait, peut-être un jour à la FIFA, et peut-être pas d'ailleurs. Mais nous dresserons le bilan de la gestion de ce très grand numéro 10 de l'équipe de France, devenu un vrai chef du football européen. Et nous évoquerons aussi les chantiers qui l'attendent. Premier faux pas du Bayern à l'Allianz Arena, les Bavarois ont enregistré leur première défaite de la saison à domicile, sans conséquence sur la Bundesliga vraisemblablement, mais peut-être plus dans l'effectif et dans les têtes aussi. Les Red Devils dans le Big Four et pour y rester à Manchester United, il semble que Louis van Gaal fasse enfin oublier l'éternel Alex Ferguson. Par contre, il doit faire face à la tristesse de Falcao. Falcao qui ne joue pas beaucoup sous le maillot des Red Devils. Et en Colombie, on est préoccupé par cela. Le sélectionneur veut d'ailleurs redonner à son buteur le plaisir de jouer. Invité dans ce studio, nous avons David Lortolari de Ma Chaîne Sport. Bonjour David.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
Ça paraît évident, quand on parle de foot allemand, David est là. Ou alors quand David est là, on parle de foot allemand.
On va essayer.
Patrick Juillard de Foot Africa 365, bonjour Patrick.
Bonjour Annie et bonjour à tous.
Et puis Alex Seban est à mes côtés, Alexandre Seban, bonjour Alexandre.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
Habib Bey est annoncé, il arrive lui aussi, il sera là dans quelques secondes. Radio Foot, c'est parti.
J'espère, au cours de ce troisième mandat, je ne sais pas ce qui se passe, au cours de ce troisième mandat, pouvoir prendre les bonnes décisions au bon moment, pour vous et pour le football. Et j'espère pouvoir le faire en continuant de m'éclater comme je le fais depuis 8 ans maintenant. Car être à la tête de cette remarquable institution n'est pas qu'un honneur, c'est aussi un véritable plaisir au quotidien. Et je ne peux que vous en remercier encore une fois tous. Sincèrement, merci à vous tous.
Hat-trick pour Michel Platini, non pas, alors on va citer celui face à la Belgique. 1984, quand il était encore sous le maillot des Bleus.
Aussi.
Le match suivant,
sublime.
Voilà. Mais ce hat-trick ce matin, c'est parce que l'ancien triple champion et ballon d'or européen a commencé donc son troisième mandat à la tête de l'UEFA et donc du puissant football européen. Le président a été réélu par acclamation. C'est comme en 2011. Est-ce que Michel Platini est si puissant que ça, finalement, David Lortolari, parce que élu par acclamation, ça peut parfois même susciter l'envie peut-être, voire les moqueries.
Je crois qu'il est, puissant, peut-être aussi beaucoup parce qu'il est très malin, Michel Platini. J'ai souvenir, moi, d'un tournage de film, je crois que c'était à l'occasion de l'Euro 2008, un film sur l'arbitrage, et Michel Platini, on voit une scène avec Michel Platini au milieu des arbitres du tournoi, et qu'il leur dit, de façon très diplomate à la fois, mais en même temps, la petite pique qui va bien, qu'il leur dit, si vous étiez...
Soyez meilleur que la vidéo.
Si vous étiez si bon que ça, vous auriez été numéro 10 et pas arbitre, il leur dit. Et là, ça passe très bien, parce que c'est Platini, parce qu'il est diplomate, parce qu'il arrive à faire passer des messages de façon...
Est-ce que c'est un ancien grand joueur?
Oui, sans doute que ça lui donne une aura quand même très très importante. Il a remplacé Lennart Johansson qui était que je connaissais pas moi personnellement bien sûr, mais qui était plus vu comme l'image d'un potentat,
d'un technocrate.
Voilà, archi, Platini a apporté une espèce de fraîcheur. Alors maintenant, ça serait paradoxal de dire fraîcheur parce que lui aussi, il commence à accumuler les mandats.
Mais c'est le troisième donc.
Il s'est installé dans un système efficace, me semble-t-il. C'est ce côté un peu malin mélangé à ses capacités de diplomate. J'aime bien.
Bonjour Habib Bey.
Bonjour Annie, bonjour à tous. Désolé pour mon retard.
Patrick Juillard, justement, quand il avait été élu en 2007, on disait c'est le romantisme du joueur, oui, du numéro 10 et tout ça. Il a montré qu'il savait être un homme de gestion et de pouvoir, voire un fin politique.
Là, le romantisme du joueur a fait place au matérialisme du compte en banque, puisque là... Le principal succès de Platini en tant que président, c'est le...
Ah, pas son compte à lui.
Non, je pense aux recettes de l'UEFA. C'est qu'il y a une explosion des recettes annuelles.
Multipliées par 3 en 8
voilà,
ans, les revenus
énorme,
de l'UEFA.
Les projections pour les années, les 4-5 ans à venir sont encore plus importantes. On pourrait dépasser les 4 milliards d'euros par an. Alors ça, c'est une grande réussite, puisqu'on sait que, comme d'ailleurs Blatter à la FIFA, c'est une affaire qui roule. Après, sur le plan du bilan de la présidence Platini par rapport au fameux romantisme dont vous parliez, par rapport à sa volonté de réforme, il y a eu quand même des évolutions. On a vu, bon, notamment l'ouverture de
la Ligue,
de la Ligue des Champions à des petits pays, à des petites fédérations qui, par
et qui
le
n'a
biais
pas
des...
diminué le brio, au contraire, de la compétition.
Voilà, qui n'a pas diminué, disons, le brillant même de la compétition.
Les deux.
Après, maintenant, le plus dur est peut-être à venir pour lui, mais ça, on va peut-être
en
parler.
Voilà. On va y venir. Habib, quand est-ce que vous serez président de la CAF, élu, réélu pour un troisième mandat par acclamation ?
Je sais pas, il faudrait que je me présente un jour, mais c'est sûr que pour Platini,
on
il a su.
Content, nous.
Platini a su, je pense, s'entourer, fédérer, un peu à l'image de Blatter. On va pas dire que c'est assez politique, mais il a
mais
su.
Mais c'est
se
bien d'avoir un joueur à ce poste-là, selon vous ?
Oui, après, parfois, je trouve qu'il oublie un peu qu'il a été, joueur de foot dans certaines réflexions qu'il peut avoir. Quand on parle de recettes de l'UEFA, il ferait mieux d'en dépenser un petit peu pour certaines technologies qui pourraient amener beaucoup au football, c'est vrai. Ensuite, il reste très inflexible sur ce type de débat. Bon, il a quand même
sur la vidéo,
quand même,
c'est
ouais,
ça.
Voilà, sur la vidéo, la goal line technologie qui pourrait apporter énormément aujourd'hui. Ne serait-ce que par exemple, on parlait de ce qu'il pouvait y avoir comme problème sur le but de Marseille. C'est aussi à l'UEFA de donner peut-être
L'exemple
déjà aux ligues, que ça soit en France, en Espagne, pour éventuellement financer. Par exemple, Thierry Hess dit que ça coûte trop cher. Peut-être que l'UEFA, par exemple, peut aider quand on voit les recettes que sont capables de faire ces associations, ces entreprises, on peut dire aujourd'hui, parce que ce sont des entreprises qui font des bénéfices. Mais ensuite, son bilan est positif. S'il est réélu, c'est qu'il fait de bonnes choses. C'est vrai qu'il a un petit peu modifié la Ligue des Champions sans forcément la dévaloriser, dénaturer. Donc voilà, il a un bilan quand même très positif, cet homme-là.
Juste pour revenir sur ce que vient de dire Habib, effectivement, Michel Platini est le grand défenseur du football sans vidéo, parce qu'il veut laisser ce côté plus humain au football, contrairement à d'autres sports où il y a la technologie qui vient un petit peu donner tort ou raison à l'arbitre ou aux arbitres.
C'est là qu'on peut d'ailleurs l'accuser entre guillemets d'être romantique, parce que c'est effectivement un peu un foot
ancien. Ouais, puis surtout que le football aujourd'hui est devenu très économique, c'est-à-dire que par exemple pour club comme Marseille, c'est vital d'être en Ligue des Champions. Imaginez-vous ce point. Alors, on n'aura jamais le débat, puisque personne ne sait si ce ballon est rentré réellement aujourd'hui. On n'a aucune technologie qui peut le dire.
Mais ça représente beaucoup
pour des clubs, donc c'est dommage de ne pas l'utiliser.
Ce point-là, en l'occurrence du dépassement de ligne, on a la goal line technologie. Après, vous n'êtes pas sans savoir que Michel Platini, comme Joseph Blatter, ne décide pas sur ce type de règles, puisque c'est le board composé des différentes fédérations anglaises
le
qui
bureau.
Décide. C'est le bureau, pardon. C'est vrai que le football est un sport anglais, j'ai l'habitude d'utiliser le mot board, mais effectivement c'est le bureau avec les fédérations britanniques plus la FIFA qui va décider.
Et ouais,
ça,
malheureusement,
c'est le patron qui donne l'impulsion.
Ouais.
Ouais. Voilà,
c'est parfois l'impression que c'est plutôt les autres membres du bureau qui décident pour Joseph Blatter.
Non, mais moi je pense que vous parlez de Joseph Blatter, je pense que maintenant on en est arrivé à une guerre tactique entre Blatter et Platini qui est l'ancien conseiller de Blatter. Au fond, je pense que les deux s'apprécient bien. Je pense qu'ils sont tous les deux un peu diplomates,
s'apprécient bien.
Un peu ronds, un peu à arrondir les angles. C'est un peu des mêmes tempéraments dans l'aspect politique, disons, des choses un peu comme ça. Mais maintenant, dès que Blatter dit rouge, Platini dit vert et ainsi de suite. Donc c'est plus possible, on n'arrive plus à avoir des consensus entre les deux. Et à terme, Platini vise la place de Blatter.
En tout cas,
il s'est
révélé comme un vrai patron.
Oui, pas renoncé à cette place de la FIFA.
Là, il savait que c'était trop court.
Il a renoncé pour maintenant. Mais
il a renoncé par élégance.
Oui, parce qu'il savait qu'il n'avait aucune chance.
Exactement.
Mais si Blatter en venait à avoir un regrettable accident ou si il devait abandonner son poste bientôt, je ne suis pas certain qu'il y a renoncé, moi.
Et l'affaire Qatar ne peut pas empêcher Michel Platini
Alors,
de
oui.
se présenter même dans 4 ans, puisque on sera à 3 ans de la Coupe du Monde, justement, au Qatar en 2022.
C'est pour ça que je disais
2019.
Tout à l'heure, le plus dur est peut-être à venir pour lui. C'est-à-dire que le choix de voter pour le Qatar, donc pour le Mondial 2022, risque peut-être d'être un caillou dans sa chaussure.
N'a-t-il pas
pour
intérêt
l'avenir
à rester
pour
un
footballeur, c'est gênant.
N'a-t-il pas intérêt à rester à l'UEFA? Parce que quand on voit le boulevard qu'il a depuis maintenant quelques années, on va dire qu'il a, il a pas trop de, il a pas du tout de concurrents directs. Donc,
parce que
il
ça
est
lui
pas
demanderait
inquiété.
Peut-être des compromissions qu'il n'a pas envie de faire.
Peut-être, peut-être.
Vis-à-vis de certaines confédérations, parce que être à la tête de la FIFA, c'est aussi
oui, et puis,
être diplomate
ben,
à plus, tous les niveaux.
En plus, Sepp Blatter devrait rempiler là, je crois que c'est au mois de mai.
Oui, oui.
Et
ah,
peut-être
oui,
encore,
oui,
peut-être encore derrière. 85 ans, ça ne l'arrêtera pas, hein, je crois pas.
Hein. C'est non, le pape. C'est après, le pape. Ce qui peut l'arrêter, c'est, je pense que l'évolution de la situation par rapport à l'organisation du mondial au Qatar risque de vraiment déterminer beaucoup de l'avenir des deux potentats du football mondial.
Autres inventions de Michel Platini qu'il a mises en avant et qui ont été mises en place. Surtout, il y a eu cet Euro 2020 éclaté un peu dans toute l'Europe, hein, dans toutes les villes, et finalement, eh bien, ça a plu. Et puis, il y a le fair play financier. Il a du mal à vraiment faire ce qu'il veut, mais il a quand même réussi à contourner les grands clubs européens et à même avoir leur soutien, non ?
Il y a le symbole d'une part, Abby bouge de la tête, moi aussi, mais ouais. Intérieurement. Mais il y a le symbole d'une part, et sur le symbole, je trouve qu'il a mis le petit coup de serrage de vis qui a été suffisant, et sur la communication, pour ça, je crois que ça a fonctionné. C'est-à-dire que dans les esprits du public, dans les esprits des gens qui regardent, dans les esprits des gens qui analysent, ça a fonctionné, ce truc-là.
Après, que dans les esprits, vous avez
oui,
l'air de
dire. Oui, bah, c'est-à-dire qu'en réalité, en pratique, on sait comment est faite la nature humaine, d'une part, mais on peut contourner. Non, mais on peut contourner le sponsorship d'un maillot, le sponsorship de sur d'un club. Je suis pas. Encore une fois, on a l'impression que, mais le fair play financier, ça reste une illusion.
Oui, moi je trouve que le slogan est bon, fair play financier, ouais. Ça claque bien pour un amateur de football, il comprend tout de suite là où on veut en venir. Mais il n'y a pas la mesure clé, le petit indicateur, parce que c'est des masses d'argent importantes, il n'y a pas ce petit indicateur, cette petite mesure clé qui permettrait vraiment de voir concrètement l'application du principe.
Théoriquement, il y a l'exclusion.
Oui, alors il y a la différence entre les dettes et les déficits, c'est ouais. Pas évident à comprendre.
Il y a un déséquilibre aussi,
c'est difficile tout ça. Donc
de toute façon, dans le dernier carré ou dernier 8 grandes équipes, il y a toujours les mêmes pratiquement.
Oui, mais le problème c'est qu'on peut pas comparer aujourd'hui le fair-play financier par exemple pour un club comme le Bayern de Munich, le Real ou le Paris Saint-Germain, puisque de toute façon les revenus, si je me trompe pas, les revenus annexes d'un club comme Paris Saint-Germain, ils vont jamais pouvoir concurrencer le Bayern de Munich. Je vous donne un exemple, le transfert de James Rodriguez est amorti juste en vente de maillots du côté du Real Madrid.
Ah ouais,
demain
ouais.
Vous pouvez acheter un joueur 90 millions ou 100 millions d'euros Paris Saint-Germain, ils ne pourront jamais amortir le transfert en vente de maillots, c'est impossible.
Ni,
donc
ni
le
en
problème
contrôle, ni en recette stade,
ni en recette stade, parce qu'aujourd'hui on n'est pas propriétaire des stades. C'est un petit peu le problème. Moi, pour avoir joué en Angleterre, quand vous voyez un club comme Newcastle qui est capable chaque année d'envoyer 60-70 millions d'euros, on parle d'un club moyen de Première Ligue. C'est ce qui fait la différence. Vous avez 52 000 abonnés, les gens portent tous le maillot, il y a peut-être 50 000 personnes dans le stade qui ont le maillot. Quand vous regardez aujourd'hui en France, c'est pas possible. Donc ce fair play financier, aujourd'hui le Bayern de Munich ne va jamais être inquiété, le Real Madrid non plus, c'est pas égal pour tous.
Alors c'est sûrement un des chantiers finalement qu'il reste à mener, hein. Michel Platini, il en a forcément conscience, mais il y en a aussi sûrement d'autres dans ce troisième mandat. Quoi faire de ce troisième mandat? Il y a par exemple un élément de réponse, c'est dans le discours qu'il a prononcé ce matin à Vienne.
Cela faisait très longtemps que nous n'avions pas dû faire face à une telle montée de nationalisme et des extrêmes en Europe. Cette tendance insidieuse, on la retrouve dans nos stades, car le football est le reflet de notre société. Notre sport, de par sa popularité, est un baromètre des maux de notre continent, et ce baromètre indique des chiffres inquiétants. Ces derniers mois, nous avons tous été marqués par certaines images que je ne pensais pas revoir un jour. Certains d'entre nous ont connu cette époque. Pour moi, c'était juste il y a 30 ans. Et personne ne veut revivre ça. Cela passe par un durcissement des interdictions de stade au niveau européen et, je le répète, par la création d'une police européenne du sport. Un appel que j'ai déjà lancé en 2007, peu après mon élection.
C'est un grand chantier, justement, ça. Mais ça dépend pas que de lui, peut-être aussi, Patrick.
Oui, c'est très, très difficile parce qu'on a vu, bon, récemment, il doit penser à ce qui s'est passé à Rome avec les supporters du Feyenoord qui ont notamment détruit une fontaine du 18e siècle, je crois. Enfin, un comportement
barbare. Il y avait
eu aussi
ce drone entre les pays des Balkans.
Serbie et Albanie.
Voilà. Alors,
c'est vrai que c'est pour moi plus un problème de police qu'un problème du UEFA ou de football. C'est pas pour exonérer le sport de sa responsabilité. l'actualité, puisque c'est le sport qui draine des comportements violents de certains supporters. On peut pas parler d'ultra, là, il faut parler de hooligan, hein. C'est pas du tout pareil. Mais il n'y a pas besoin d'aller, enfin, même en France, on voit ce qui se passe à Bastia tous les week-ends quand ils jouent là-bas. Désolé pour mes détracteurs corses sur Twitter, mais c'est pas acceptable et ça doit être combattu. La vraie ligne à placer, c'est sur la violence physique. C'est-à-dire que je pense qu'il faut pas confondre tout. C'est-à-dire qu'on peut laisser des supporters s'exprimer via des banderoles, mais la violence physique doit être totalement combattue et interdite.
David, il y a une certaine impuissance. Par exemple, on se souvient quand Chelsea vient et ses supporters, là, se fait de racines dans le métro, l'UEFA a dit, on ne peut rien faire, a priori. C'est le club qui a pris certaines décisions,
mais oui.
C'est limité, en fait.
Mais oui, et Michel Platini dit dans ce qu'on a entendu à l'instant, le football est le reflet de notre société. Bon, bah, très bien, ok. C'est intéressant ce que dit Patrick, parce que les propos qu'il a employés pour décrire les événements récents dans certains stades, on peut les plaquer sur le drame du Heysel des années 80 ou que Michel Platini a vécu comme joueur. Et alors que c'était d'autres types de mouvements de foule, d'autres types de supporterisme.
De motifs ou de raisons.
Et puis un stade vétuste aussi. Heureusement, il n'y a plus de stades comme ça qui accueillent de matchs aussi importants.
Oui. Mais que faire aujourd'hui contre le hooliganisme? Il faut interdire les déplacements de supporters à travers l'Europe, à travers les villes.
Ça arrive déjà.
Je pense qu'il faut mieux cibler les clubs dangereux, les clubs à risque. On sait que certains clubs sont plus sujets que d'autres au hooliganisme. Je pense que par exemple le Feyenoord de Rotterdam, notamment, sans vouloir les viser spécifiquement, est sujet à ce type de problème.
Le Dynamo Kiev, on l'a vu avec Guingamp.
Bon, il y en a d'autres.
Non, mais il y a pas que Bastia. Mais le problème, c'est que certains clubs ont peur de d'enlever une partie de leurs supporters. C'est-à-dire que si vous enlevez à Feyenoord, par exemple, ce hooliganisme, peut-être que vous perdez 10 à 15 000 personnes dans votre stade.
Mais c'est ce qu'on a dit lorsque il y a eu le plan Le Prou au PSG. Puis finalement, ça se passe bien.
Ça se passe bien, mais tout le monde aujourd'hui. C'était une bonne initiative, mais regardez l'ambiance aujourd'hui du Paris Saint-Germain.
Malheureusement, les gens, le Parc des Princes.
Ça a éteint le Parc des Princes. Alors après, je préfère ça et ne pas avoir de violence et de morts et de drames. Mais regardez en Angleterre. Par exemple, en Angleterre, c'est simple. Quelqu'un qui fait ça est interdit de stade à vie et chaque jour de match, il doit pointer au commissariat. Et c'est des mesures qui sont malheureusement, pour ces gens-là, peut-être strictes, mais qui permettent qui ont permis aux Anglais quand même de se débarrasser, même s'ils sont pas forcément à 100%, mais de se débarrasser de ce genre de choses.
Mais ça,
après,
c'est utiliser les stades aussi.
Oui, bien sûr.
Mais les Allemands,
il y a la différence entre ce qui se passe dans les stades et en dehors des stades. Et ça, c'est difficilement gérable pour l'UEFA, par exemple.
Je trouve que ce qui se passe en Allemagne, David, je parle sous le contrôle de David qui sera peut-être d'accord, c'est qu'ils sont arrivés à garder un côté festif, un côté, assez agité dans le bon sens du terme autour des matchs, sans qu'il y ait de débordement, parce que il y a quand même, en Allemagne, les autorités ont laissé une certaine liberté aux supporters, dans l'abord des matchs.
Il y a surtout un panachage en plus dans les stades. On a une partie debout, une partie en loge, une partie familiale. Ouais. C'est très mélangé
et
en fait.
Bien même si ça je trouve
pas.
Que c'est bien coup, fait, que c'est une voie d'avenir pour moi.
David, est-ce qu'il n'a pas aussi une autre chose à faire, Michel Platini, c'est à convaincre les pays que ça va être bien une Coupe du Monde en hiver?
Ah oui, il y a des chantiers comme ça. Il y en a un autre moi qui me convainc pas du tout, c'est les 5 arbitres. Ils pourraient en mettre 12 autour du terrain. J'ai l'impression que ça changerait rien.
On a l'impression.
Enfin, il y a un problème de recrutement peut-être. Oui. À partir du moment où l'idée a été lancée de cette Coupe du Monde en hiver, je sais pas, 5, 6, 7, 9 ans avant.
Il était vraiment d'accord et l'UEFA est en train de se désolidariser de cette ligue des grands clubs européens ou des grandes fédérations européennes qui sont contre Habib.
Mais ça va être compliqué, hein, parce que plus que de faire accepter aux gens de regarder une Coupe du Monde en hiver, ça à la rigueur, on est des amateurs de football, on va aimer ça, mais comment vous allez faire avec les grands clubs qui vont voir 20 joueurs, 25 joueurs partir? C'est-à-dire qu'aujourd'hui,
on dit qu'on a préservé le Boxing Day, mais enfin,
D'accord, mais prenez une équipe comme Chelsea, par exemple.
Symbolique,
ou prenez une équipe comme Manchester City. Mais qui va rester? Vous prenez du gardien jusqu'à l'attaquant, ils sont tous en sélection, ils sont tous en Coupe du Monde. Donc, quel championnat vous avez pour le Boxing Day? Ce qui fait la recette des clubs anglais.
Et oui, la recette. Problème. Vous pouvez pas tronquer la saison de 6 mois parce que
peut-être que le problème avec la CAN aussi.
Il y a tout ça. Alors après, aujourd'hui, j'ai pas de problème sur le fait qu'on apprécie de voir une Coupe du Monde en janvier. Je vais regarder le football comme s'il est en janvier, comme si je le regardais au mois de juin. C'est plus pour les clubs que c'est problématique.
Et tout le calendrier, quoi.
Ouais, ça va être compliqué. En tout cas, c'est donc un autre dossier sur lequel devra travailler Michel Platini.
Ils vont jouer en été, vous allez voir.
C'est la fin de cette première partie de Radio Foot International. On se retrouve juste après la pause. On va parler de football allemand et aussi de football anglais. À tout de suite. Thank you.
Radio Foot International, Annie Gasnier.
Deuxième partie de Radio Foot International sur RFI. Deuxième partie avec nos invités David Lortolari, avec Patrick Juillard et Habib Bey, ainsi que Alexandre Seban. Alors, nous parlions de Michel Platini du foot européen. On va rester en Europe, mais on va aller du côté de l'Allemagne. L'Allemagne où même le Bayern Munich peut perdre un match. Et oui, l'équipe de Bavière, considérée pourtant comme l'une des plus fortes du moment en Europe, une des favorites pour remporter la Ligue des Champions, a trébuché ce week-end, et qui plus est à domicile, dans l'Allianz Arena, face à ses supporters, vaincu 2-0 par le Mönchengladbach. Mais ils sont toujours en tête, largement, Alexandre.
Ils sont très largement en tête, David.
L'année dernière, ils avaient été sacrés en mars, là, ça sera peut-être au mois d'avril.
Ça sera un peu plus tard en mars, oui. Vous aviez dit il y a quelques temps, en fait, plus tard, que le mois de mars sera peut-être au mois d'avril, il faudra attendre un petit peu, mais je suis pas sûr que cette défaite remette vraiment en question le timing pour être champion. Le Bayern Munich possède 10 points d'avance sur le deuxième, Wolfsburg, qui a 54 points, et Borussia Mönchengladbach, 47 points, troisième, encore plus loin.
David, on se souvient que l'année dernière, ils avaient été champions au mois de mars et Pep Guardiola avait trouvé que c'était trop tôt parce qu'après, il y avait eu un coup de mou, notamment en Ligue des Champions.
Oui, alors s'ils en sont à faire ces calculs-là et à laisser quelques points en route pour pouvoir rester sous pression, en tout cas, c'est juste un mot, c'est une victoire historique de Mönchengladbach qui ne s'était imposée jusque-là que deux fois à Munich et à chaque fois par un but d'écart. Ce 2-0 est la plus grande victoire du club. Alors que c'est un club célèbre depuis les années 70, mais il s'était jamais imposé par deux buts d'écart à Munich.
Alors, un incident de parcours, peut-on dire, mais cette équipe compte donc de l'avance. Et Pep Guardiola a quand même dit qu'il fallait faire attention à ce genre de petit incident.
Je crois qu'on a tout essayé, mais le Borussia Mönchengladbach a mérité sa victoire. Ils ont été solides défensivement et ont bien joué les contres. De notre côté, nous aurions aimé remporter plus de duels, mais sans Franck Ribéry et Arjen Robben, ça devient forcément plus compliqué. C'était le 8e match de la seconde partie de saison en Bundesliga. On dirige toujours le classement avec 10 points d'avance sur le deuxième. Maintenant, on doit continuer à gagner des matchs pour être champion. Et je peux vous dire qu'on va tout faire pour ça.
David, deux êtres vous manquent et tout est dépeuplé. C'est quand même pas parce qu'il y a eu deux absents. On a par exemple vu que Neuer, le meilleur gardien du monde dans la meilleure équipe d'Europe du moment, pouvait aussi une ou deux.
Une et demie.
D'accord.
Il y a deux problèmes, effectivement, Annie, au Real qu'il faut soulever. Au Real, n'importe quoi. Au Bayern.
Le Real a perdu.
C'est pas tout de suite, hein. C'est pas tout de suite.
Les envies d'Espagne, David.
Le premier problème, c'est qu'effectivement, si vous ôtez du 11 de départ ou de l'équipe Franck Ribéry et Arjen Robben, qui sont les deux joueurs qui tentent des dribbles et qui arrivent à faire des différences en face à face.
Robben, le deuxième meilleur buteur, hein, en plus.
C'est beaucoup plus brouillon. Oui, 17 buts pour lui. C'est beaucoup plus brouillon, c'est beaucoup plus incertain, ça ronronne et il n'y a pas réellement de différences qui sont faites. En tout cas, ce week-end, c'est ce qui s'est passé. Et il y a un deuxième problème au Bayern, c'est que chaque fois que Bastian Schweinsteiger, le capitaine de la sélection, et Xabi Alonso sont alignés côte à côte, ce qui a été le cas ce week-end, c'est un échec total. C'est-à-dire que ils se marchent dessus, ils ont le même rôle, un seul pourrait suffire, semble-t-il. Et je suis en train de me demander si Pep Guardiola ne les fait pas jouer tous les deux, il est malin, Pep, avec l'idée qu'il faut les garder tous les deux le plus tard possible sous pression, au cas où il y en aurait un qui serait blessé au moment de la demi-finale, ou éventuellement, si le Bayern y accède, de la finale de la Ligue des Champions, pour avoir vraiment les deux toujours bien, bien sous pression. Mais ça fait deux problèmes importants dans ce club actuellement, et ces deux problèmes qui ont été handicapants ce week-end.
Du pur machiavélisme, et vous êtes d'accord?
Machiavélisme, je sais pas, mais je pense que le jeu avec la pression est important. L'année dernière, vous le disiez justement, ils avaient un peu décompressé trop tôt après ce titre gagné au mois de mars, et ça leur avait joué un mauvais tour quand ils s'étaient agi de jouer le Real Madrid. Ils étaient pas dans le coup. Là, je pense que Guardiola essaye d'impliquer au maximum tous ses cadres, tous ses joueurs clés, et du coup peut-être que là il y a un nouveau risque, c'est la fatigue physique peut-être.
Non, mais il sait faire ce genre de choses. Rappelez-vous, à Barcelone, il aime utiliser les gens, leur faire croire que, regardez, avec Thierry Henry à Barcelone, avec Samuel Eto'o à Barcelone, avec le Bayern de Munich, rappelez-vous Mandzukic, qui jouait, mais Guardiola n'en voulait pas. Il n'avait qu'une intention, c'était de le vendre ailleurs. Il aime utiliser les gens, Ibra également. Donc,
il s'en souvient,
donc c'est quelqu'un qui se sert quand même souvent de certaines personnes parce qu'il n'a peut-être pas le choix.
Là, pour arriver à ses fins.
Pour arriver à ses fins. Voilà, pour arriver à ses
fins. L'équipe.
Moi, plus que l'absence de Ribéry parce qu'il avait été absent et le Bayern était très, très compétitif, c'est plus Robben. Pour moi, qui est l'élément clé de cette équipe du Bayern, plus fort que, pour moi, plus fort que Franck Ribéry.
Saison, c'est net,
sur cette saison, c'est net. Il fait la différence. Il est intenable. Il est buteur. Il est passeur. Donc, c'est plus l'absence de Robben qui est préjudiciable au Bayern. Ensuite, ils ont le droit de perdre contre Gladbach, qui est une bonne équipe cette saison en Bundesliga, qui vraiment techniquement joue bien au ballon. Et en plus, Wolfsburg n'a pas gagné. Donc, c'est assez tranquille.
Et Alexandre, pour appuyer ce que dit Habib, effectivement, une absence préjudiciable à Arjen Robben, puisque c'est 25% des buts Arjen Robben à lui tout seul en Bundesliga avec le Bayern Munich. Le Bayern Munich a marqué 70 buts en Bundesliga, Robben 17, c'est 25% tout de même de l'attaque.
Sans parler des passes décisives.
Ouais, 8 passes décisives. À la limite, là où on peut éventuellement se dire que ça pourrait passer, c'est que en Ligue des Champions, l'apport d'Arjen Robben n'est pas le même. Il a marqué seulement 2 buts, il a fait une seule passe décisive. Le Bayern Munich a marqué 21 buts quand même en Ligue des Champions. Peut-être que en Europe, sur en terre européenne, le Bayern est plus productif sans forcément un grand Robben.
Puis ils vont rencontrer Porto, qui a fait une très très bon match, mais c'est contre Bâle. Il faut relativiser, même si Bâle est une bonne équipe. Je pense que le quart de finale pour Bayern est quand même assez simple, même si Robben ne sera pas là.
Justement, Guardiola a intérêt à ne pas se louper parce que il n'est pas dit que il reste l'entraîneur du Bayern Munich.
Il n'a pas signé de prolongation.
Il subit un deuxième, il n'a pas encore prolongé. Et s'il
subit pas à Berlin,
un deuxième échec en Ligue des Champions. À ne pas, parce que le Bayern veut clairement gagner la Ligue des Champions, même la finale serait une place de finaliste serait un demi-échec.
Pas suffisant.
Même si ce serait mieux que l'année dernière. Donc je pense que là, il a intérêt à bien gérer ça et à ne pas, surtout, mais c'est pas son genre, prendre Porto de haut.
Mais justement, Alexandre. David, les solutions pour l'instant sont claires et nettes pour Pep Guardiola. Ça serait Thomas Müller sur la droite, Götze sur la gauche, lorsqu'il n'y a pas Ribéry et Arjen Robben.
Ouais, alors mais il est un peu illisible parfois. Guardiola, il nous a encore fait une expérimentation ce week-end, mais alors un échec. Alors là, pour le coup, total. Il a mis David Alaba, qu'il aime bien brinque-baller un petit peu entre la défense centrale, le côté gauche et le milieu défensif gauche. Il l'a mis à droite. C'est un gaucher, ça a été un échec total. Il y a eu un 1-2 à un moment avec Schweinsteiger, il s'est retrouvé en position de frappe sur son pied droit et c'est parti dans les tribunes. Non mais alors que c'est un joueur fantastique et donc les expérimentations, il est capable de nous en faire à chaque match de championnat, d'inventer un nouveau truc, de déplacer des joueurs, de mettre Lewandowski sur la gauche alors que c'est décidément, définitivement un avant-centre axial. Enfin avant-centre.
La plupart du temps quand il le fait, ça fonctionne bien. Ce qu'il avait fait cette défense à 3.
Oui, c'est vrai.
À la S-Rom, ils en avaient mis quand même 7. Tout le monde avait dit, on se demande pourquoi le Bayern joue qu'avec 3 défenseurs. On avait vu le résultat. Donc c'est quand même quelqu'un qui tente, qui réussit souvent. Mais c'est vrai que ses choix de mettre Alaba à droite, c'est assez inquiétant de voir qu'il n'a pas d'autres solutions. Pourtant, il en a.
Oui.
Mais disons que la polyvalence et le talent ont des limites, quoi. C'est-à-dire, on peut faire des expérimentations, mais il ne faut pas être en dépit du jeu et en dépit de la vérité des joueurs, comme Alaba, quoi.
Philippe Lahm est de retour. Donc lui, il peut l'utiliser où il veut, puisque Lahm est au service d'eux. Et puis aussi Thiago Alcantara, qu'on n'a pas vu depuis la 22e journée de la saison d'avant, donc plus d'un an, et qui va peut-être être aussi un apport très important en fin de saison.
Comment expliquer que le meilleur gardien, qui a failli être un ballon d'or cette année, en tout cas qui était troisième, comment expliquer à Bib qu'il fasse des fautes comme ça? C'est inattention, c'est parce que le match, justement, est peut-être dans l'esprit des gens, parfois gagné d'avance?
Ouais, mais ça peut arriver. Franchement, quand on voit le niveau auquel est Manuel Neuer aujourd'hui, c'est exceptionnel. Franchement, il est intouchable. Alors après, une faute de main, quand il l'a fait, le problème, c'est que tout le monde la voit et se dit comment lui peut faire une faute de main. Donc elle est encore vue, elle est commentée par tout le monde parce qu'elle nous interpelle, mais sincèrement c'est juste, alors même si je pense qu'il en fait deux, plus deux qu'une et demie, maintenant c'est il vaut mieux en faire deux dans le même match, comme
oui,
on dit,
oui, sans
que une à chaque match. Donc voilà, pour lui je pense que c'est derrière lui et c'est des choses qui peuvent arriver.
Ce qui est amusant, c'est qu'au match aller 0-0 au match aller entre ces deux équipes, ça veut dire aussi que Mönchengladbach avait été capable déjà de déranger le Bayern, mais il avait été l'homme du match, c'est-à-dire qu'il avait fait il avait gagné plusieurs face à face avec les attaquants adverses. Ça rééquilibre un tout petit peu, il est tellement performant.
Et puis il a été abandonné par sa défense.
Oui.
Oui, et puis ça le rend humain.
Mais est-ce que finalement,
romantique.
Voilà, absolument, c'est toujours.
Est-ce que finalement, David, Manuel Neuer n'avait peut-être pas déjà en tête une petite blessure qui a été confirmée aujourd'hui, une inflammation au genou, il va manquer le prochain match amical de l'Allemagne. Préservé, dit-on, pour les matchs plus importants qui arrivent dans la phase éliminatoire.
Oui, du dosage. Je suis assez d'accord avec cette hypothèse.
Peut-être pas eu, voilà, dans sa tête, une douleur et...
Il a été remplacé par Pepe Reina, le gardien espagnol, qui est la doublure dans le club, pour la première fois il y a peu de temps, là.
Ouais, face au Werder de Brême, quand ils ont gagné 4-0.
D'ailleurs, c'était le deuxième gardien étranger de l'histoire du Bayern. Rendez-vous compte, 115 ans d'histoire, c'était seulement le deuxième gardien étranger. Jean-Marie Pfaff, le Belge, dont certains doivent se rappeler, avait été le premier. Mais je referme cette parenthèse. Et peut-être que ça abonde dans ce sens-là, c'est-à-dire que préserver... Il y a eu une époque où il avait souffert de l'épaule et il avait souhaité beaucoup, beaucoup jouer, mais bon, ils avaient quand même essayé de faire attention. Là, il y a peut-être une petite affaire physique aussi.
Et puis, il a pas soufflé, hein. Il a fait la Coupe du Monde, oui. Il a eu peu de vacances, il est revenu, il joue tous les matchs avec le Bayern. Donc, pour un gardien aussi, c'est éprouvant.
Hein. Et contrairement à ce qu'on croit, même en jouant avec le Bayern, quand il gagne 7-0, il a du boulot quand même. Parce qu'en Allemagne, le jeu n'est pas fermé.
Habib, vous qui avez des envies ou peut-être des velléités d'être un jour entraîneur, vous savez que vous irez peut-être un jour comme ça, vous iriez en stage avec Pep Guardiola au Bayern?
Ouais, pourquoi pas.
Il y a Willy Sagnol et Zinedine Zidane qui sont à Munich aujourd'hui.
Ah oui. Bon, bien apprendre.
Ça arrive de temps en temps et il est question par ailleurs, je veux pas m'avancer Patrick Vieira serait pressenti, on en parle pour entraîner les jeunes aussi.
Mais il y a Makelele qui est avec eux aussi.
C'est pas la première fois que le Bayern accueille, il y a cette tradition aussi, c'est Rummenigge qui insiste pour cela, le président, et effectivement
ils ont des liens.
Oui, et puis pour montrer les installations, c'est aussi une fierté, c'est aussi, je pense qu'il y a de ça.
Non, mais il n'y a pas beaucoup d'entraîneurs qui ont révolutionné le football, c'est-à-dire sur ces dernières années. Guardiola l'a fait avec le Barça, il a amené un nouveau style que tout le monde essaye de copier. Donc ça prouve qu'aujourd'hui, si vous êtes à ses côtés, vous allez apprendre des choses. Quand, la façon
et lui-même s'était inspiré de Marcelo Bielsa.
Exactement, c'est vrai. Donc non, mais je pense que c'est un bon apprentissage pour tous ces entraîneurs, ces futurs entraîneurs, même si Sagnol l'est déjà.
Alors on parlait de ceux qui sont derrière le Bayern. Il y a donc Wolfsburg, il y a aussi le Mönchengladbach et le Bayer Leverkusen. Celui qui est un peu plus derrière, mais c'est quand même un club qui nous intéresse, notamment à cause ou grâce plutôt à son buteur, c'est le Borussia Dortmund, David. Alors, il y a cette chevauchée fantastique, là on essaye de revenir et de revenir aux places européennes. Est-ce qu'ils vont y arriver ?
C'est amusant parce que dans le club, il y a deux cloches qui sonnent en ce moment, mais qui ont un son complètement différent. Deux sons de cloches complètement différents. Les joueurs, et oui, en parallèle, les joueurs évidemment sont des compétiteurs et ont envie de regarder quelques unités au-dessus et de voir que...
Ils
sont pas trop loin pour l'Europa League en tout cas, pour se qualifier.
Oui, ils sont à 5 points.
Ouais, 5 ou 6 points.
5 points, oui.
Et ils sont 10e actuellement avec 33 points. Mmh.
Les dirigeants, l'entraîneur d'une part, Jürgen Klopp, et puis le patron aussi, Watzke, qui freinent eux des quatre fers en disant, on va pas regarder en haut, il faut digérer le fait qu'on s'extirpe à peine de la zone dangereuse.
Rouge.
Et les journaux sérieux en ce moment sont en train de se pencher sur le cas de Dortmund. Et j'ai l'impression que si on prend un peu de recul, on s'aperçoit que le club devrait s'installer dans les prochaines années. Il est sorti d'une quasi-faillite en 2007, 2008, 2009,
ouais.
Dans ces eaux-là. Et il est en train de chercher à s'installer, à trouver un équilibre avec Schalke, avec Leverkusen, avec Wolfsburg, avec Mönchengladbach, ce groupe d'équipes qui sera le groupe qui visera l'accession en Ligue des Champions chaque année. Et Dortmund peut-être ne doit pas viser plus haut que cela.
Il y a peut-être aussi Augsbourg qui va rentrer dans ce club, parce que cette année, pour la première fois, ils peuvent viser l'Europe.
Ils font une belle saison. Oui.
Ils font un bon boulot de structuration et de recrutement de jeunes joueurs.
Et vous avez parlé de digestion. Est-ce que le Borussia Dortmund n'est pas en train de digérer le départ de Robert Lewandowski?
Cette année, le recrutement a été pour l'instant négatif.
Ouais,
et ça, c'est très important.
Ils n'ont pas réussi à faire la
bascule. Ramos immobilier, ça n'a pas fonctionné. Voilà.
Par contre, Habib, ils ont été quand même sauvés par Aubameyang ce week-end.
Ouais,
ils ont réussi à gagner à Hanovre 3-2 et c'était important cette victoire et ces points.
C'est important. Et puis, je pense qu'Aubameyang fait une belle saison. Il a été bon en Ligue des Champions, il est bon en championnat. On attendait immobilier, on ne voit plus Aubameyang. Après, moi, j'ai du mal à me dire que Dortmund va réussir à se relever du départ sûr, à mon avis, de Jürgen Klopp. peut-être pas, mais en tout cas de leur Reus, Marco Reus, qui va sûrement s'en aller. J'ai eu l'impression qu'ils n'ont pas réussi à remplacer Lewandowski comme ils avaient pu le faire avec Götze les années précédentes. On parle aussi de Jürgen Klopp, peut-être du côté de City, si Pellegrini ne reste pas, parce que s'il n'y a pas le titre, ça fera une saison sans titre pour City. C'est un profil qui peut intéresser les Qataris. Donc, s'il venait lui à partir, si Marco Reus venait à partir pour Dortmund, ça serait très compliqué s'ils n'ont pas la Ligue des Champions.
Et puis David, je crois peut-être le dernier mot sur Borussia Dortmund, c'est les jeunes pousses, Mkhitaryan, Gundogan aussi n'arrivent pas à confirmer.
Oui, alors cette saison c'est compliqué parce qu'on l'a dit aussi, il y en a qui étaient carbonisés par la Coupe du Monde, ça a été difficile de se remettre. Gundogan, attention parce qu'il a été rappelé là en sélection et c'est un merveilleux milieu de terrain.
Il a beaucoup été blessé.
Quand même. Voilà, c'est ça. C'est il faut retrouver l'agrégat et
blessé en fait dans cette équipe de Dortmund, voilà. C'est aussi ça qui l'a beaucoup affaibli cette saison. On se souvient la saison dernière, donc. Bon.
Mais accession encore possible à la Coupe d'Europe en fin de saison. Il reste 8 journées, il y a encore des points à prendre.
Oui. Ils sont partis pour, en tout cas. La Première Ligue avec, eh bien, toujours en tête Chelsea. Son titre semble assuré cette année. En tout cas, c'est l'impression que cela donne avec l'avance qu'a toujours cette équipe de 6 points derrière. Il y a Manchester City toujours. Alors, nous, on a retenu en fait la prouesse des Mancuniens parce qu'ils sont de nouveau dans le Big Four anglais. 3 équipes en 3 points, il faut quand même le souligner. Entre Manchester City et Manchester United, il n'y a que 3 points et 3 équipes avec Manchester United, Manchester City et au milieu Arsenal. En tout cas, le beau coup du week-end, eh bien, c'est que les hommes de Van Gaal ont réussi à l'emporter à Liverpool. C'était sur le stade d'Anfield. Ils ont gagné en plus assez nettement, un doublé de Juan Mata par 2-0. Mais quand même, on a l'impression que Louis Van Gaal mise sur l'équipe de base, sur la bonne équipe. C'est la question qu'on va poser d'abord à Bruno Constant. Bonjour Bruno.
Bonjour.
Alors Bruno, Louis Van Gaal, on parlait des innovations de Pep Guardiola, tout ce qu'il essaye et tout. Louis Van Gaal, il mise sur un noyau dur et il s'y tient.
Ouais, je sais pas si vous vous rappelez, mais la meilleure période de Manchester en début de saison, c'était au mois de novembre et début décembre, où l'équipe avait enchaîné 6 victoires consécutives. Et à l'époque, déjà, on avait noté que c'était avec le retour des anciens, entre guillemets, notamment Michael Carrick au milieu de terrain, Valencia et Ashley Young sur les côtés, Rooney en pointe, et puis Mata qui jouait en soutien de Rooney et qui faisait beaucoup de bien. Et alors que Falcao était sur le banc, Di Maria était sur le banc, et bien c'est exactement ce qui est en train de se passer depuis 4 rencontres. Ils ont enchaîné 4 victoires consécutives. Falcao était à nouveau sur le banc face à Liverpool. Di Maria l'était également, et ça a évidemment beaucoup de bruit. Et puis c'est avec ces joueurs, notamment Rooney en pointe, avec Mata qui a été éblouissant, auteur du doublé, notamment son 10e but, un ciseau acrobatique magnifique. Et voilà, c'est avec le retour des anciens, des Anglais, on va dire, de ceux qui composaient le noyau dur, que Manchester parvient à enchaîner les rencontres, enfin, on a envie de dire, parce que ça a été quand même très, très poussif depuis le début de l'année. On a un petit peu du mal à saisir cette équipe de United. Et alors, ce qui est marrant, c'est que Louis Van Gaal avait annoncé dans une interview au Daily Telegraph la semaine dernière qu'il espérait voir son équipe arriver à maturité, arriver à son rythme courant au mois de mars. Et ça arrive entre guillemets, c'est une victoire magnifique contre Tottenham la semaine dernière, enchaînée avec une victoire à Anfield face à Liverpool, l'ennemi historique. Ça fait évidemment beaucoup de bien à United.
Aller gagner à Liverpool, le score 2-1, Habib, c'est jamais très facile parce que c'est vraiment le derby dans ce pays. Mais surtout, on a l'impression qu'enfin, peut-être qu'on oublie ce Manchester United des années Ferguson.
Bah oui, mais en tout cas, c'est surtout qu'on a oublié par rapport à ce match-là, parce que c'est sûrement le meilleur match de la saison de Manchester. On a oublié vraiment la morosité de ce que nous a proposé Van Gaal depuis le début de saison. Ils sont à cet emplacement aujourd'hui, à cette 3e place, juste grâce à De Gea. C'est-à-dire qu'il fait une saison aujourd'hui pour Manchester United qui est exceptionnelle. Alors oui, le match face à Liverpool est abouti. Moi, le vrai changement pour moi, c'est de replacer Rooney en pointe. Quand il nous a mis Rooney au milieu de terrain, c'était une catastrophe. Exactement. De voir un Wayne Rooney qui a autant de talent être au milieu de terrain au service d'une équipe. Alors oui, c'est faire le jeu. Mais Falcao, il joue, moi je le vois. Mais ça me fait mal parce qu'il boite. À mon avis, il n'a pas récupéré de sa blessure. Et là, oui, Rooney en pointe, c'est quelque chose. On met Mata derrière qui est capable de lui donner des bons ballons et qui en plus marque sur ce match à Liverpool. Après, ils ont été bien aidés quand Steven Gerrard a pris ce carton rouge, parce que à 2-1 quand Sturridge marque, je pense qu'à 11 Liverpool aurait pu revenir parce que Manchester était en difficulté. C'est quand même un petit miracle de voir Manchester à cette place-là, même s'ils sont meilleurs depuis quelques semaines, vu ce qu'ils nous ont proposé depuis le début de saison.
Je vais totalement dans le sens d'Habib, je trouve que Van Gaal n'a pas du tout trouvé l'équipe type, la bonne carburation, il tâtonne encore, on est au mois de mars, il tâtonne encore. Il y a énormément de changements tactiques, il fait 3-4 matchs dans un dispositif, il change. Bon, là le placement de Rooney à son vrai poste, à son meilleur poste, et la complémentarité avec Mata fonctionne bien, mais il y a l'inconnu Di Maria, puisque le mercato va approcher. Est-ce qu'il va continuer ça va être compliqué pour eux, je pense. Non,
David.
Pas du tout.
Qu'est-ce que c'est que c'est le niveau de cette première ligue? Il n'y a plus un club en Ligue des Champions. Manchester United, dont Habib nous démontre à juste titre qu'ils sont pas quand même bien brillants et ils sont qu'à 2 points de Manchester City. Enfin, c'est même Chelsea.
Pas convaincu non plus.
Ah non, pas du tout, non. Non. Bruno, il n'y a pas de stabilité. Non, mais c'est vrai. Ils nous ont pas démontré de brillance cette saison.
C'est efficace. On attend encore de voir. Mais Bruno, c'est sûr que c'est pas séduisant.
Chelsea a été très bon pendant 4 mois au début de l'année.
Mais... scepticisme ici, Bruno.
Toujours.
Bon, Alex, vous voulez rajouter
quelque
chose ?
Pour enfoncer le clou, je crois que le calendrier de Manchester United va être assez compliqué. Bruno pourra nous le confirmer. 8 matchs en championnat pour Manchester United. Il reste 8 matchs à jouer. Et il y aura 3 gros, très gros matchs face aux membres du Big Four. Manchester City se déplace sur la pelouse de United. Ce sera lors de la 32e journée le 11 avril. Ils auront ensuite un déplacement à Chelsea. Et en fin de championnat, ils devront recevoir Arsenal. Ça semble compliqué quand même.
En tout cas, Bruno, ce qu'on a remarqué quand même, justement, et Patrick l'abordait, c'est que Van Gaal, sur le recrutement, il ne s'y appuie pas vraiment sur ce recrutement estival. Et notamment, sur 2 joueurs qui, en Europe, étaient très importants jusqu'à présent, que sont Falcao et Di Maria. D'abord, la réponse de Louis Van Gaal sur ce sujet.
Je pense que c'est comme ça pour tous les joueurs qu'on a amenés ici. La première saison est toujours difficile. Et on le voit pour chaque joueur qui est arrivé, que ce soit Luke Shaw, Daley Blind, Ander Herrera, Radamel Falcao et également André Di Maria. Donc pour moi, ce n'est pas une grosse surprise.
Falcao et Di Maria, big surprise, pas pour lui. Est-ce que c'est un échec du recrutement l'intersaison du côté de Manchester, Bruno?
C'est un échec effectivement du club, mais c'est aussi un échec de la part des deux joueurs, parce qu'on ne peut pas non plus leur donner des excuses à chaque fois. Bon, Falcao est arrivé, il revenait de blessure, donc forcément, il fallait être patient avec lui.
Oui, vous avez entendu, écoutez, Habib, il le serait encore ou il ne se sentirait pas encore super bien?
Ouais, c'est difficile à dire. Le problème, c'est que c'était Alan Shearer qui le disait, c'est que Louis Van Gaal donne pas assez de matchs, donne pas assez de temps de jeu à Falcao. Il devrait le laisser plus souvent sur le terrain. Il a tendance à le retirer à l'heure de jeu quand Falcao arrive seulement à se mettre en jambes. Et c'est un vrai problème, c'est que Falcao n'arrive pas à enchaîner les rencontres. Donc d'un côté, il peut pas enchaîner les rencontres, il peut pas retrouver son rythme. Et de l'autre, s'il est pas efficace au bout d'une heure de jeu, Louis Van Gaal a envie de changer et d'amener quelqu'un d'autre. Donc c'est un vrai casse-tête pour Falcao. Pour Di Maria, c'est quand même différent. C'était quand même un joueur qui a été extraordinaire la saison passée. Sans doute le meilleur joueur de la finale de la Ligue des Champions avec le Real de Madrid. Sans doute le joueur qui aurait pu faire la différence lors de la finale de la Coupe du Monde avec l'Argentine. Et le problème, c'est que Di Maria, on se demande si Di Maria avait vraiment envie de quitter le Real de Madrid. Il avait vraiment envie de signer à Manchester United. Et aujourd'hui, alors on entend un peu tout et son contraire. Oui. C'est-à-dire on entend que Di Maria veut absolument quitter United dès cet été. Il aurait fait part à son agent, Jorge Mendes, qui est également l'agent de Falcao. Mais en même temps, la semaine dernière, il y a eu une interview de Di Maria qui expliquait qu'il voulait rester à United et qu'il voulait s'imposer. Donc on ne sait pas si c'est de la communication de la part de Manchester United pour essayer de calmer un peu le jeu. Mais c'est quand même assez flou autour du joueur. Et en tout cas, c'est un échec pour le moment. Il n'arrive pas à retrouver cette explosivité sur le côté. Quand il joue en plus le plus souvent dans l'axe. C'est là où le Serge Van Gaal. C'est vraiment un casse-tête pour le joueur et pour l'entraîneur.
Habib.
Mais c'est là que le projet de Van Gaal est flou, parce que on se rappelle que quand Manchester n'était pas très très bon, et lui il a été performant, Di Maria. Le problème, c'est que depuis qu'il est arrivé, on le balade de droite à gauche, on le met dans l'axe, on le met au milieu de terrain, on le met derrière l'attaquant. À aucun moment j'ai vu une continuité dans les placements de Di Maria.
Ouais.
Di Maria, il est performant au Real de Madrid, il était performant sur le côté droit. C'est là où il a été le meilleur joueur de la Ligue des Champions.
Bah,
il arrive à Manchester. première position, on le met à gauche, c'est-à-dire à l'opposé d'où il jouait au Real Madrid. Ensuite, on voit que ça fonctionne pas, ou en tout cas qu'il y a pas de lien avec Rooney et tout ça, on le met derrière l'attaquant. Quand il est pas bon derrière l'attaquant, c'est là que moi je trouve que le projet de Van Gaal il est flou. Quand on a un joueur de cette qualité, il faut le faire jouer au poste où il est le meilleur.
Patrick. Ouais, et là, on entendait Van Gaal dire les recrues ici ont du mal à s'adapter. Je pense que c'est aussi vrai pour les entraîneurs. On avait vu l'année dernière David Moyes qui a pas pris la mesure du poste, mais le pauvre, c'était un entraîneur venant d'un club inférieur, donc la presse a été très dure avec lui. Je pense qu'il y a une certaine complaisance envers Van Gaal parce que c'est un grand coach qui a coacher des grands clubs.
Oui, on avait vu qu'à un certain moment, il n'avait pas de meilleurs résultats.
Si la presse avait la même, été regardée de la même manière tous les coachs, ils
mais regardez combien ils ont dépensé.
Manchester
United a dépensé des millions, c'est-à-dire plus de 100 millions, si je me trompe pas, si je veux peut-être pas dire, peut-être pas que 100 millions, parce que il a coûté combien, Di Maria? 70? Luke Shaw a coûté au moins 20? Donc c'est énormément d'argent.
Ils ont pris Welbeck également, Manchester United, et ça fonctionne pas très bien.
David Falcao, ils vont le renvoyer à Monaco.
Ah mais pleure, quel que soit le joueur.
Alors on dit qu'il
Arsenal,
pleure avec certaines des personnes de ses interlocuteurs au téléphone. Il se désespère de sa situation.
Mais on rigolerait bien de le voir retourner à Monaco avec le cinéma qu'il y a eu au moment où il est parti. Mais Van Gaal, c'est typiquement le genre d'entraîneur qui a une telle poigne qu'il arrive à obtenir des succès. Mais c'est typiquement le genre de gars à avoir une boîte avec des emplacements ronds et à faire rentrer des objets carrés à l'intérieur. C'est-à-dire que peu importe quel joueur c'est, Habib a raison de parler des joueurs déplacés. Il pourrait mettre Rooney arrière latéral, ça m'étonnerait pas du tout. C'est typiquement du Van Gaal.
Et moi je comprends pas une chose, c'est pourquoi il n'a pas recruté plus de joueurs néerlandais. Un joueur comme Yann Mat, par exemple, aurait été très bien à Manchester United. Et bon,
mais voilà. On voit pas Van Persie, c'est bizarre. Il est blessé en Van Persie, Bruno?
Toujours, oui, toujours blessé à la cheville. Il doit revenir a priori début avril. Mm-hmm. Mais en tout cas, United va bien sans lui aussi. Hein. Donc Van Persie, c'est aussi un échec aussi pour lui parce que United tourne sans lui, mais presque sans avancement avec Rooney.
Ouais.
Il y a un joueur dont on parle peu, c'est quand même Juan Mata. Hein.
Oui.
Juan Mata, c'était le joueur.
On y reviendra. On y reviendra, Bruno. Excusez-nous. Bon voyage à vous. Nous, on continue notre voyage ici. On en reparlera de Juan Mata. Et on parlera aussi des grands buteurs de la Première Ligue. Merci à tous. Merci à David Finzel, Olivier Rossi et aussi à Gabriel Sultan. À demain. Merci.